André Suarez, Dostoïevski. Chapitre 5. La profondeur russe. Passion du fond caché, l'âme de fond. Le plus souvent, elles dorment. Mais il arrive, soulevées, qu'elles emportent les rives de la paix commune. Vous ne savez pas jusqu'où peut aller l'amour de la vie dans les êtres profonds. Née pour la souffrance et qu'elle y attache. Il les porte à tous les excès que vous appelez des crimes selon votre droit. Ni les juifs charnels, ni les yankees ne pourront jamais l'entendre. Ils sont trop asservis à leurs idoles. Les juifs, dans leur esclavage des biens terrestres et selon leur inclination à en jouir commodément. Les yankees, dans leur brutal mensonge d'automate, à deux ressorts d'agitation vaine et de vaine morale. Donner sa vie, et même prendre la vie des autres, sans en peser exactement la valeur au poids de la raison, de l'agrément et du succès, voilà l'honneur mystique. Dostoïevski, qui a toutes les sortes d'honneurs, hormis celui de la vanité, sent l'honneur mystique au même degré qu'un saint apôtre. L'amour de l'amour fera d'un homme à la Dostoïevski le bourreau d'une femme et le jouet d'une autre. Mais pour toutes les deux, il n'aura que des caresses dans l'âme et toutes de son sang. La passion de l'innocence le poussera peut-être à vivre en amant avec une petite fille, non pour la corrompre, que le ciel en soit témoin, pour approcher sa fraîche pureté et s'y purifier soi-même. Pour la connaître, on ne connaît que dans la possession, et toute possession touche au crime, hélas. Pour la croître de ses propres larmes, cette adorable innocence. Enfin, pour y retrouver la sienne. Jamais assez de bonheur, jamais assez de joie, et toujours dans la tendresse et le rire dans les larmes. Car où est-il le bonheur, sinon dans la folie de tout ce qu'il nous coûte? L'âme souffrante est seule égale à cet insatiable appétit, et elle n'est point si d'abord elle ne soupire. A-t-il des regrets et des remords, Dostoïevski, lui qui va si loin dans l'art cruel de se connaître? Il s'en donne toute l'apparence. Mais remords est un gros mot qui cache et qu'il devrait définir. Dostoïevski a le désespoir de ne jamais atteindre ce plein de la passion qu'il poursuit. Suave désespoir, déception terrible, espace du désaveu, désert de l'entier délaissement de soi-même. L'unique passion est, en somme, la passion de la plénitude. Un artiste créateur voudrait presque participer de moment en moment à la création universelle. C'est pourquoi il se déteste en vain lui-même à l'infini. Il ne se méprise pas. Il peut, au contraire, mépriser beaucoup les autres, et sans jamais les détester pourtant. Il est en lui une ardeur éternelle pour le noyau du fruit. Tous les crimes pourront hanter son âme. Elle ne saurait rien perdre de sa pure volonté, qui est de ne pas nuire. Ni de sa primitive convoitise, qui est l'innocence après tout. Elle n'aspire qu'à saisir l'objet vivant, à l'adorer en lui-même, à le posséder jusqu'à le détruire. Enfin, je dirais qu'elle veut le tuer, cet objet d'amour, pour le recréer ensuite aux dépens de sa propre vie. Dostoïevski n'est pas du tout Rousseau étalant ses misères et bravant à mesure qu'il dit « Vous êtes plus misérable que moi, et je vaux mieux que vous, du moins en ce que je vous montre que je ne vaux rien. » Pour lui, Dostoïevski, il vaut un grand prix, et tous valent le leur. Il touche le fond qui est la valeur même de la vie, comme au-dessous des océans, pourvu qu'on jette assez la sonde, c'est toujours la solidité immuable de la terre. Et toutes les mers ne sont qu'une robe de rosée sur l'écorce. Dostoïevski ne réprouve que la méchanceté sans amour. Le désir lui est sacré pour peu qu'il porte flamme, le désir même impur. Pour lui, il n'y a rien de médiocre en soi, parce qu'en lui-même, même les forfaits de la chair, tout est cœur et âme, ou du moins en recèle. Rien n'est vil à ses yeux sur la terre que les peuples et les hommes sans âme. Versé dans tous les péchés au besoin, pour être capable de les tous expier, les eût-on même caressés dans le brasier que le cœur alimente. Où est l'amour, là est la vie, encore un coup. Où est la vie, là est le bien. Voilà pourquoi il est si bon d'expier l'erreur incluse au crime. Tout châtiment est injuste et l'œuvre du démon dans celui qui l'inflige. Juste et salutaire dans le coupable qu'il accepte, car son cœur le réclame. Ou avoir la force de se punir soi-même, ou être puni. La vie perdue dans la faute se retrouve dans l'expiation. Le crime égare le cœur et n'a peut-être pas d'autre horreur que cet égarement. Dostoïevski a souvent paru méchant homme et il a passé pour envieux. Un être trop aigu semble toujours méchant. La force blesse. Le regard qui pénètre les cœurs est un poignard pour eux. On lui en veut de la piqûre, fût-il de la pointe la plus fine, et quand il l'émousserait dans l'effusion des plus tendres larmes. Les hommes refusent d'être devinés. Encore moins acceptent-ils qu'on les révèle à eux-mêmes. On ne les dépouille pas sans leur faire violence, et ils gémissent de se reconnaître. Dostoïevski ne ménage rien. Le mensonge, qui est au fond de la nature humaine, l'irrite jusqu'à la rage. Il est celui qui se mesure avec tout vainqueur selon le monde, quel qu'il soit. Et il le frappe, il l'atterre, il l'écorche vif. Il condamne tous ceux qui osent porter condamnation sur la créature. Il ne juge que les juges. Fait pour la solitude ou pour tout un peuple, mais non pour se plier au goût de quelques-uns, qu'ils veuillent plaire ou qu'ils veuillent blesser, il ne se contient jamais. Ses pleurs sont aussi prompts que son éclat de rire bref et toujours étonné. C'est lui que j'entends dans le salon des Épanchines, quand le prince innocent, dévoré de sympathie, effraie tous ses amis, exaspère sa fiancée et court avec une telle allégresse à sa mort sociale. Il pouvait être exquis ou cynique par un désir égal d'être soi-même, de plaire à qui lui plaisait et de déplaire à qui ne lui aurait plus jamais. Et comme il traitait les gens tête à tête, le public est traité par ses livres. Piqué d'amour-propre, dans l'extrême ivresse de ses sentiments, plutôt que dans l'orgueil de ses pensées, il se portait à cet excès qui offense le plus les autres, qui est, eux présents, de les oublier. Ou bien, s'il pouvait croire à leur sympathie, il les associait à sa passion, il se les y incorporait, il les baignait dans le torrent de sa ferveur. Perdant toute retenue, avec un sens raffiné pourtant de la mesure sentimentale, il ne prétendait pas convaincre, mais faire aimer l'objet de son amour. Et sans doute, il y mettait d'autant plus de caresses ou de violence qu'un tel désir enveloppe la convoitise que l'on a de tout amour. Alors il précipite les paroles, il lève les vannes, il lâche les écluses de sa raison passionnée. Il est hagard, il fait peur. Cet homme au cœur désespéré d'amour a les bonds et les griffes du chat tigre. Il en avait aussi les doux miaulements, les tendresses morbides et le velours. Ah, quel don des larmes, des saintes larmes! Quel élan aux pleurs! Comme il ouvre la source intarissable, la fontaine aux affligés qui sont dans le désert, tous les pèlerins du cœur, que la soif tourmente entre l'aridité du ciel et la sécheresse des sables. La force du style emporte tout. Mais la profondeur du sentiment enferme tout, et le style même. Avoir les mêmes larmes, ne serait-ce pas le dernier mot de l'art? Les chœurs musiciens sauront m'entendre. Je dirais que la dureté de Dostoïevski à l'égard des étrangers et des juifs est une raison de style. Ils n'ont pas les mêmes larmes. Ils détestent tous les peuples de l'Ouest. Ils se moquent de l'Occident. Forcé de vivre en Suisse, en France ou en Allemagne, il étouffe. Tout lui est vide quand il quitte la Russie. Il se venge sur les étrangers du dégoût et de l'ennui qu'il respire avec eux. Mais il est capable à Pétersbourg ou à Moscou de leur rendre justice. Il les veut employer au bien de la Russie à la condition qu'ils s'y prêtent. Or, ils s'y refusent. Et même, ils haïssent les larmes russes, bien loin de mêler leurs pleurs aux pleurs de ce grand visage. Voilà comment tout finit chez Dostoïevski, par la condamnation des Juifs. Au lieu d'être Juifs en Russie, que ne sont-ils Russes en Judaïe? Mais ils ne seraient plus. Entre Dostoïevski et les Juifs, il y a la même querelle qu'entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le second abroge l'autre, puisqu'il l'accomplit, le mort hanté sur le visage corrompt le vivant. Enfin, Dostoïevski est joueur, et d'autant plus qu'il perd toujours. Pourquoi joue-t-il? Dans l'homme malheureux qui est deux fois passionné, le jeu prend toute sa force. On joue pour jouer, et l'on joue pour gagner. J'ai souvent dit que la loterie ou le coup de dé me semble le plus honnête moyen de faire fortune. Pour ceux, il va de soi, qui n'ont point le génie à faire fortune. Et il est vrai qu'ils ne la font pas. La morale est donc satisfaite. Ceux qui ne croient pas au sort n'ont jamais regardé la vie. Le hasard est le nom public de la fatalité. Le jeu est la consultation populaire du destin. Œdipe joue sur la route de Thèbes. Oreste naît joué. Les anciens, grands connaisseurs de l'action, n'ont pas de doute là-dessus. Ils en viennent jusqu'à tricher avec la chance pour garder un atout contre la série noire. Tel est le sage Polycrate de Samos, lequel fait en vain une part au malheur. Comme il est juste, sa réserve ne le protège point. Le destin n'entend pas qu'on le flatte. Il punit l'un pour son humilité et l'autre pour son insolence. Dostoïevski, inquiet en tout, devait avoir l'âme au jeu. Il jouait ses 6 derniers roubles comme on sème dans les champs d'Eldorado pour en récolter 10 000, payer toutes ses dettes et sortir de la gêne. Persuadé que le gain est toujours possible, pourvu que le destin y consente. Il ne faut qu'un instant d'oubli, après tout. Il suffit que la malfortune regarde ailleurs un clin d'œil, et l'on gagne. Bien pensé, et d'autant mieux que la sueur d'effroi fait encore la part de la mauvaise chance. Celui qui perd toujours n'a pas de raison pour ne pas toujours tenter l'aventure. L'orgueil le veut ainsi, et le sens du juste. Dans le joueur d'un certain ordre, il y a un homme passionné de justice. Toujours perdre l'irrite. En principe, on ne doit pas perdre plus souvent que l'on ne gagne. La foi s'en mêle et l'on s'obstine. Cet amour-propre n'est pas ridicule parce qu'il est fondé sur un culte ingénu de la vie. L'homme malheureux joue pour sortir du malheur. Mais il joue encore pour forcer le bonheur qu'il fuit. Le jeu est une interrogation de la fortune. Et plus elle refuse de répondre, plus on l'interroge. Si je gagnais toujours, je voudrais jouer pour perdre. Comme il est plus ordinaire de toujours perdre, on joue pour gagner ce soir ou demain ou la semaine prochaine ou quelques jours enfin. Je gage en jouant que Dostoïevski priait. qu'il manque de dignité avec noblesse, qu'il s'élève bien au-dessus des usages, comme il en tient justement compte, en n'en tenant pas compte, en faisant fi de ce qu'on attend de lui. Quel profond honneur le dispense de satisfaire à l'honneur selon le monde, cette suite infinie de petites bassesses que recouvre un masque d'impudence banale, peint aux couleurs d'une politesse propre à tout usage. L'honneur, dans la société moderne, n'est qu'une façade d'argent sur un palais où il n'y a plus rien, ni salle, ni meubles, ni chambre des époux. L'incendie a passé par là, et la maison est vide même du secret nuptial. Dostoïevski n'a point de part à cet honneur des salons et des capitales. Dostoïevski ne se cache pas pour pleurer. Il ne rougit pas de mendier. Il ne donne pas tant de valeur à l'argent. Il n'a pas tant de respect pour l'or, ni pour celui qu'il n'a pas, ni pour celui des autres. Il ne cède rien de son Dieu. Il ne trahit jamais ce que son Dieu exige de lui. Et voilà le véritable honneur. La Yankaï a peut-être le sien après tout, le dollar et le bain froid. Mais plutôt, Dostoïevski subit l'avanie que la turque fortune fait sans cesse à la misère. Sa constance est héroïque. Pour servir son Dieu, il est le plus humble des hommes. Il consent à prier, à solliciter, à recevoir l'aumône. Comme il ne se dérobe à aucune charge, il ne recule devant aucune humiliation. Lui, qui avait tant d'orgueil et beaucoup d'amour-propre, cette peau enflammée de l'orgueil malade, il se met à genoux, en chemise, autant de fois qu'il faut. Il supplie, il baise la main qui donne. Et pourtant, donner à un tel homme, c'est toujours lui donner le fouet. Il le reçoit avec douceur, il accepte toutes sortes de bienfaits sanglants. Il faudrait être bien bas pour le lui reprocher. Il a l'amour de la perfection, telle est la main qui le courbe. Travaillé par tant de maux, il sacrifie sa dignité selon le monde, à sa mission selon l'esprit. Il ne serait pas le plus russe des Russes s'il ne croyait à sa mission. Plus il accepte, moins il reçoit pour lui. Il s'inquiète d'être toujours en retard avec ses éditeurs, mais il n'a pas honte d'être toujours en dette avec ses amis. Et s'il en souffre, il y trouve une occasion de servir encore. C'est qu'il n'arrive jamais à se satisfaire. Celui qu'on prend pour un barbare aime la perfection comme un artiste de France ou d'Athènes. Il se laisse abaisser aux yeux de tout le monde, mais il ne saurait trahir l'œuvre qu'il porte. Par là, il me rappelle Wagner une fois de plus, et certes, en des arts si opposés, d'une manière si diverse et d'une forme si contraire, Wagner et Dostoïevski se touchent de plus près que pas deux autres. L'analyse de Wagner et celle de Dostoïevski procède du même fond. Les mêmes mouvements intérieurs qui se combinent, s'enlacent, se nouent et se dénouent. La même volonté du cœur, ici et là, enveloppe un sentiment unique. Elles vivent d'émotions et, en deux ordres différents, elles tendent à produire une émotion semblable. Les arbres ne sont pas de la même essence, les feuillages diffèrent, et les branches se dirigent vers des horizons contraires, mais les racines sont communes. Je reconnais Wagner même au rire de Dostoïevski. Wagner n'a ri qu'une fois, et sa joie, non pas sa gaieté, trempe dans l'émotion. Il n'y a pas l'ombre de gaieté dans le grand russe. Pour moi, le comique énorme et douloureux de Dostoïevski me touche le plus. Lebedev, Marmeladov, le père Karamazov, tant d'autres figures étonnantes d'une plénitude incomparable, à la Falstaff. Elle vient de l'amour comme le reste. Ils s'aiment, ces bouffons. Ils s'aiment à fond comme des monstres ou des enfants. Et ils aiment la vie comme des saints. On peut donc les aimer jusque dans le mépris qu'ils inspirent. À la vérité, Dostoïevski est un des croyants magnifiques à la beauté de ce monde, qui serait capable de guérir les esprits fins de tout mépris si l'on pouvait guérir la petitesse d'être petite et la morale d'être étroite. Criminel ou ridicule, Dostoïevski est pour ses héros comme il est pour tout ce qui l'anime. La vie, il n'a pas d'autre parti. Voilà la source d'un comique sans second à mon goût. Il n'est pas destructeur. Il est purgé de toute ironie. Il est net de tout blâme, même dans l'invective. Marmeladov, Lebedev et toute la bande, tendres coquins et chers cyniques, bouffons de la vie elle-même qui se contemple dans les pleurs autant que dans le rire. Parce que Dostoïevski ne nie rien, même quand il détruit, ces bouffons affirment tout un monde qui n'a pas réussi, mais qui, tout de même, a continué sa croissance dans la honte, le péché, la coquinerie, la crapule et les remords. Ils portent leur excuse avec eux, et bien plus leurs privilèges légitimes. Ils sont sûrs à la fois de leur indignité et du droit qu'elle a, elle aussi, à vivre. Je dirais même de sa prérogative en ce monde et dans l'autre. Car il souffre, c'est luxurieux et c'est ivrogne. Soit qu'ils subissent les plus sales misères, soit qu'on les méprise et les haïsse. Quelle différence de Lebedev et Marmeladov à Bouvard et Pécuchet, ces caricatures immortelles. Ceux-là, on ne peut même pas les mépriser. Ils font d'abord rire, puis ricaner. À la fin, leur comique est pareil à la chatouille interminable de la pensée. On crève d'ennui et d'énervement à ce rire. Ils sont abstraits et mornes. Ils figurent la science et ses travaux à perpétuité. Marmeladov et Lebedev sont si hommes qu'ils sont justifiés. Dostoïevski dirait qu'il y a un Lebedev et un Marmeladov en chaque père de famille, pour peu qu'il eût à vivre dans les conditions où ceux-là ont vécu. Ils ne sont pas dans la mort, ni impitoyablement condamnés, comme les deux secrétaires perpétuels de Flaubert, automates de l'universelle dérision. Il est contre l'Occident dans la mesure où l'on s'arme de l'Occident contre la Russie. Jamais Dostoïevski n'a pu donner de gage à quelque parti que ce fût, pas même au sien, celui de la terre et des vivants. La volonté de nier lui est toujours étrangère. Il affirme en niant. La haine n'est pas en lui. Il n'est même pas antisémite. Il est contre les Juifs au même titre qu'il combat tous ceux qui nient le Christ et la Russie. Comme il est libre en dédaignant toute liberté politique. Il sait que la liberté n'est pas dans le vote, car sont-ce pas les esclaves qui votent? Qu'il soit libre de tout parti, je le sens à la force de sa fibre première. L'art, la politique, la religion, en Dostoïevski, tout sort de la même cellule. L'humble orgueil d'être le confident de la vie universelle et de se confondre avec elle indéfiniment. Il faut qu'un homme en vaille bien la peine pour qu'il se donne à l'univers. Ou quel don ferait-il? Qu'il tombe du plus haut ou qu'il s'agenouille d'abord, s'il se couche enfin sur le corps de la terre comme il le doit, c'est pour rendre à cette mère tous ses baisers et toutes ses larmes, un grand amour et une grande joie. Tout donner enfin n'est pas assez si l'on ne donne beaucoup. Dostoïevski exalte le moi pour en faire à la vie un sacrifice digne d'elle. Tout de même, il porte au plus haut point sa race et sa patrie pour en offrir le miracle au genre humain. Il n'est pas aigrement l'homme de la Russie contre l'Europe, mais il ne veut pas que l'Europe soit appelée par la Russie même à corrompre la Russie, à la déformer et à la détruire. Qui absorbe détruit. Il faut se nourrir de la pensée étrangère, mais ne pas se laisser digérer par elle. L'amour du sol et de la race n'invite pas Dostoïevski à l'isolement. C'est un amour qui aime et se prodigue, non pas une possession jalouse qui thésaurise. Il n'écarte rien, il ne repousse que la confusion. Plus la Russie sera russe, plus l'Europe sera l'Europe, et plus en sera noblement accrue la vie du genre humain. Amour du sol sans petitesse ni rancune. La terre est d'un seul tenant. Droit à la terre pour qui baise et qui aime la terre. Sans doute on tient d'abord au coin de terre qui nous tient. Mais pour Dostoïevski, les morts ne gouvernent pas les vivants. Jamais Dostoïevski ne remue ce poison mortel. Jamais il ne convoque les morts, fût-ce dans leur vertu. C'est à la générosité des vivants qu'il en appelle, et à leur grand amour qui fait vivre les morts. Dostoïevski est bien trop fort pour s'enfermer dans un cimetière. Nous ne vivons pas dans un charnier, mais dans une pépinière au soleil, bénie de nos larmes. Il ne s'agit pas d'enterrer la vie, mais de la renouveler. L'œuvre de l'homme n'est pas de cultiver les germes d'un sépulcre, mais de rajeunir la terre et le sépulcre même en y semant des cultures nouvelles, avec piété. Point d'avarice, ni de ressentiment acide. Dostoïevski ne craint pas que l'Europe lui dévore la Russie. Mais il s'oppose à ce qu'on jette la Russie comme un os à l'Europe. En tout ordre, à tous les degrés, Dostoïevski annonce le devoir d'être soi-même le plus possible pour être plus homme. À ce prix seulement l'humanité sera meilleure et plus belle. La race, enfin, n'est à ses yeux qu'un moyen de parvenir à l'humanité supérieure. Ce que l'Occident connaît par la mesure, le Russe le devine par le sentiment. L'Occident énumère et calcule, il est nombre et géométrie. Le Russe évoque et pressent. Il est mouvement intérieur et musique. L'Occident ouvre les yeux sur le monde. Il voit et il compare. Le Russe, à la Dostoïevski, regarde au-dedans. Si le Russe ferme les yeux, ce n'est pas pour voir davantage, sans doute. C'est pour mieux entendre les profonds murmures de la vie, dans l'ombre où les images se définissent, des objets si l'on veut. Le rythme est la première figure, et au sein des ténèbres, c'est de la mélodie que naissent les formes, prodiges obscurs. Telle est la raison pourquoi le Russe ne vaut rien s'il n'aime. Il ne critique pas, il nie. Il ne doute pas, il détruit. Il n'est pas athée, il est prêtre du néant. Avant 42 ans, Dostoïevski n'a rien produit qui vaille. Toutes ses grandes œuvres sont de l'âge plein, entre 40 et 60 ans où il est mort. Les autres Russes sont plus précoces. Pouchkine, Lermontov et Gogol ont peu vécu, mais d'une vie ardente. Fédor Mikhaïlovitch n'était pas de ces jeunes gens. La Russie ne serait connue en Dostoïevski que peu de temps avant de le perdre. Il a été le héros de sa nation, l'homme qui pense, le cœur qui bat pour toute la race. Mais il ne le fut que 5 ou 6 ans avant de mourir. Il lui fallut toucher à cette extrémité encore pour prendre le rang auguste que Tolstoï lui-même n'a pas obtenu. Pendant près d'un demi-siècle, Tolstoï a pu passer pour le plus grand artiste de son pays. Mais pendant quelques saisons, Dostoïevski a été l'homme de la Russie, celui qui aime et qui est, qui pense, qui veut et qui parle pour tous, l'aîné vénérable de la maison, le guide entre tous les frères. Il est l'homme de la douleur. Est-ce là son seul titre ? On aurait bien tort de le croire. J'ai compris la douleur russe dans Dostoïevski. Elle n'est pas seulement féconde, elle a la force active qui purifie. La joie russe n'a aucune vertu. Les peuples jeunes ont toujours assez de joie puisqu'ils veulent vivre. La joie que vous cherchez vous déprime. Pour en venir à ce règne douloureux, il fallait que la vie de Dostoïevski fût tout ce qu'elle a été, en effet. Il fallait qu'il tombât dans l'erreur politique, qu'on le prît pour un rebelle, lui, qu'il était si peu, qu'on le condamnât à mort et qu'il croupît au bagne. Personne ne doit plus à ses souffrances que Dostoïevski. Personne ne doit plus à ses erreurs. En personne, la faute ne fut plus féconde. Là, il s'est fait cette vue incomparable du revers qu'il applique au sentiment des hommes. Il lit les deux côtés de la page, et la face visible ne lui est qu'un moyen de mieux connaître l'autre. L'erreur d'une grande âme n'est jamais que dans l'action. La volonté ni le cœur n'errent point, étant toujours fidèles à la grandeur qui les anime. On ne se trompe que sur la route à suivre. Quand on revient sur ses pas, on possède tout l'horizon et toutes les perspectives qu'on n'eût peut-être jamais bien vues sans cette erreur-là. Elle est la racine commune de la peine et de la puissance. L'œuvre qui fit la fortune de Dostoïevski jeune homme et celles qui vinrent ensuite jusqu'à la catastrophe du bagne me semblent d'une invention médiocre et d'un très faible prix. Elles sentent la crasse sentimentale des galetas. Elles sont géniardes et larmoyantes. Le peu de gaieté qu'elles ont grimace. Elles annonçaient le gogol des mansardes, s'il peut y avoir un gogol, moins la force et le style. Le trait est forcé, le dessin sans beauté, les ombres épaisses. Elles ressemblent au tableau d'un peintre oublié, Tassaert, qui pleurnichait lourdement dans les taudis de grabat en grabat. Subtiles enfin, mais sans profondeur. Or, la profondeur du sentiment corrige seule la subtilité qu'elle implique. Seule la profondeur de l'analyse suppose l'extrême complexité et la justifie. Ce double don qui devait porter Dostoïevski à une hauteur où personne ne le dépasse ne se fait sentir dans les premières œuvres que par l'embarras de l'action et la contorsion des caractères. Au début comme à la fin, Dostoïevski ne peint que des jeunes gens et quelquefois des vieillards. Là encore, c'est la Russie même qui n'est pas mûre, toujours trop verte ou trop avancée. Elle a ses adolescents pourris et de vieilles gens à l'âme plus fraîche que l'enfance. Souvent, là-bas, les jeunes femmes portent un cœur de cadavre, plein de vermine et de cendres, sous une chair en fleurs. La Russie vit dans l'excès. En tout jusqu'ici, elle ignore l'entre-deux. Dostoïevski lui-même et ses livres sont au centre de ce monde inconnu. Lui et ses livres sont les grandes œuvres de l'âge mûr. C'est l'homme dans toute sa force. Il possède la jeunesse. Les jeunes gens ne connaissent pas les jeunes gens. Dostoïevski est cet homme, celui qui ne fait tort ni de la réalité au rêve, ni du rêve à la réalité, qui peut seul comprendre toute la profondeur de la vie. Peu importe ses erreurs de fait, les premières et les dernières, celles qui l'ont mené au bagne, et celle qui le ferait prendre pour un conseil des 100 hommes noirs. Peu importe que la troisième section soit la face cachée et le bras visible de l'Évangile dans l'horrible empire. Peu importe son excellence peau de vin, les princes qui volent les fonds de la Croix-Rouge aux malades et aux blessés, ou le règne des Allemands, forcenés policiers, qui gouvernent au nom du Christ et de la race slave. Toutes les erreurs de fait n'empêchent pas de croire à la Russie que Dostoïevski nous incarne. Elle n'est pas seulement en lui, mais il nous la révèle. Il achève tout ce qu'on en voit dans Pouchkine et dans Gogol, dans Tourguenieff et Tolstoï. Il faut qu'il y ait un peuple russe dans les Langes. Il faut que ces esclaves politiques soient admirables de liberté morale. Il faut que ces brutes, dans l'enfer de l'ivrognerie et des massacres, soient tout de même riches d'une conscience qui n'a plus d'égal en Europe. Il faut que ce peuple, capable de tout parfois, comme les enfants cruels, et qui dort le reste du temps dans une affreuse impuissance, il faut pourtant qu'il soit le seul peuple d'Europe qui ait encore un dieu. La Russie, même folle, même lâche, même noyée dans le sang et dans l'eau de vie sans parfum, la Russie ne vit pas pour l'argent, ni pour la haine, ni pour la balance du commerce, ni pour les triomphes ignominieux de la violence. La Russie vit pour rendre une conscience religieuse au genre humain. Elle a malgré tout le cœur fraternel à tous les hommes, même au milieu des boucheries et des vomissements où la jette son hystérie. Dostoïevski était né pour la douleur et pour s'élever dans la douleur au-dessus de tout l'égoïsme et de toute la misère morale, où la douleur enferme généralement les natures médiocres. Il lui fallait la maladie, les tortures du cœur, l'angoisse de l'esprit, la présence de la mort pour conquérir ce que j'appelle l'appétit et la santé d'une vie universelle. Un peu plus, c'eût été trop. Il faut pouvoir respirer pour vivre. Mais un peu moins, il fut resté, comme tant d'autres, à mi-chemin de l'ascension sainte et terrible. Ce n'est pas à un moindre prix que l'on prend à soi toute souffrance et tout supplice. On ne gravit sûrement la montagne que sur des échelons sanglants. Surtout, il lui fallait le bagne et l'enfer des crimes pour se purger à fond d'un amour-propre qui fut toujours féroce et d'une naturelle jalousie. Mais bien plus encore, cette damnation devait lui révéler les grands fonds de l'âme humaine, où nul n'est descendu plus avant, Shakespeare et Wagner exceptés. Là, il connut que le crime a ses vertus et qu'il peut être plein de la vertu même, que la qualité d'homme ne se prescrit jamais, que le cœur présente tout grief et toute excuse, que la sécheresse de l'âme est le seul péché, si même il en est un, que la faute est partout, qu'elle a toujours une dispense, qu'elle obtient remise pourvu qu'elle consente un peu à l'expiation. Et la souffrance vaut le consentement quand la rebelle le refuse. Que l'amour est le salut de tous et de chacun. Que la rédemption est le prix du sang. Que le châtiment, horrible en ceux qui osent châtier, est nécessaire à tout coupable pour rassurer en lui l'orgueil de son destin et la dignité de l'homme. Car toute vie, avant d'être à son terme de beauté, toute vie est une expiation que l'amour nous propose et qui doit être expiée. Voilà où Dostoïevski a saisi l'âme de son peuple et de tous les peuples et de ceux-mêmes qui l'ont tué. Il a pesé que les premiers, selon le rang, sont souvent les derniers, selon la vie. Et les derniers, selon le monde, les premiers, suivant l'âme cachée du monde. Là, il apprit à se mettre au-dessus de toute apparence. Là, il s'est fait à vivre en profondeur, car toute l'œuvre de Dostoïevski est une vie dans la profondeur et dans la vérité secrète, qui est l'unique vérité, sans doute. Là, il s'est établi inébranlablement au-dessus de tous les préjugés. Et ceux de la raison n'ont pas tenu devant lui plus que ceux de la morale et de la politique. Le grand Dostoïevski a montré, le premier, que la fin de la vie est la vie même. Mais il a été plus loin. Il a connu profondément que que la vie elle-même est une forme vide sans le cœur qui l'anime, et ainsi que l'amour est la fin de cette fin unique. Qu'est-ce donc, sinon que l'homme est fait pour se toujours passer soi-même? L'homme n'est point une figure achevée, mais un élan à la forme parfaite, un essai continuel à l'homme. Je trouve cette vertu héroïque dans Dostoïevski et cette grandeur intérieure. L'intuition est une vue du cœur dans les ténèbres. La nuit extérieure s'illumine de l'éclair jailli du dedans. C'est là que rien ne se formule et tout s'éclaire. Là où la vie prend forme, où les mobiles se condensent, où se détermine l'action. L'intuition est bien le luminaire de la profondeur. Elle est la conscience amoureuse de ce qui est, au fond de ce qui paraît être. Elle est ce qui demeure en ce qui devient et qu'elle porte. Elle est vraiment l'instinct de la connaissance et son amour. En Dostoïevski, je finis par tout référer à l'intuition. Dostoïevski a conscience de son intuition et tel est son miracle. Il faut le lire en musicien. La chasteté n'est que le signe le plus visible des âmes pures. La pureté suprême est l'innocence de la bonté, l'horreur de faire le mal. Dostoïevski n'hésite pas à produire des prostituées plus chastes et des assassins plus purs à l'en croire que les honnêtes gens. C'est qu'ils aiment et que le crime en eux n'est pas le mal qui dure, mais l'erreur, la folie et la misère du moment. Jamais il ne dit avec emphase que la prostituée ou le criminel valent mieux que l'honnête femme et le juge. Mais la prostituée qu'il défend est une victime. Il montre en elle non pas l'excellence de son infamie, mais l'excellence de la douleur que l'infamie lui coûte. Et enfin, toute créature qui se donne avec passion est victime, quel que soit son bourreau, son complice ou son idole. Nulle trace en cet homme admirable de morgue vertueuse. Nul ne s'est moins juché sur les échasses du devoir et de la morale. À la profondeur où il s'est exercé les origines, il trouve en soi la semence et l'excuse de tous les péchés. Et le crime des crimes, qui est la cruauté, il en débrouille aussi les racines, avec un saint effroi. Il touche, il voit que la cruauté et la luxure se tiennent comme deux sœurs monstrueuses, unies par le même os de désir. Plus il les déteste, plus il en épouse la connaissance. Dostoïevski n'a pas proprement pitié du mal, à moins que le châtiment ne soit plus pitoyable à la faute que la rémission. Mais sa compassion est merveilleuse pour la peine, ou publique ou cachée, que le péché exige. Pitié qui n'est point vague ni fumeuse. Elle ne comporte aucune faiblesse, elle ne tient pas au larmoiement. Elle est la vertu humaine par éminence, la vertu des vertus, la charité, sans quoi tout reste mort et vide. L'amour véritable est là, où celui qui aime s'oublie soi-même et se confond entièrement dans l'objet aimé. L'arme de la compassion, vous faites une honte éternelle au baiser sans pitié. Le plus haut point de la vertu est toujours de se vaincre et d'embrasser parfaitement l'objet, lui être le cœur et l'âme qu'il a si peu ou qu'il n'a point. Cette conquête est d'une autre grandeur et d'une autre fécondité que la domination telle qu'elle. S'emparer d'autrui et du monde, misère près de la puissance qu'il faut pour leur donner la vie et les sauver. Voilà le magnifique courage de la vision que seuls les Russes ont eu avec nos Français. Ils ne font pas un pauvre choix dans les passions humaines. Il les considère toutes. Ils ne feignent point de croire que les amants n'ont point de lèvres. la profondeur du sentiment russe et la puissance de l'esprit français, les deux ailes à l'essor de la nouvelle connaissance. Il n'est pas de profondeur sans un rêve fervent de l'éternel. La profondeur est sous-jacente au sentiment et non à l'intelligence. La profondeur est le privilège de l'âme religieuse et de cette âme seulement. Il n'y a pas de vérité religieuse, mais le sentiment religieux a sa connaissance. Quelle intelligence forte ne cherche pas dans une relation de soi à l'univers. Mais ce n'est rien d'en avoir l'idée. Elle n'est qu'un chiffre. Il faut en avoir le sentiment. Et telle est l'âme religieuse. Après bien des routes et des chutes cruelles, l'âme religieuse se fixe dans l'amour. Là est son lieu et sa conquête. Là, sa force et la vocation de sa puissance. Là serait son repos, s'il en existait un. Dostoïevski n'a pas manqué la couronne promise à l'amour errant. Il est entré au port de la recherche idéale. La réalité, font-ils, la réalité. Eh oui, nous savons, nous aussi, qu'il n'y a point d'arbre sans le sol qui le porte, sans fumier ou sans terre. Mais s'il ne quittait jamais le sol, s'il n'était pas ce qui s'évade du fumier et ce qui sort de la terre, l'arbre ne serait pas l'arbre, et sa racine même pourrirait. Les grands Français ont toute la force dans l'esprit. La plupart, ils n'ont pas la profondeur qui est si naturelle aux âmes religieuses. Ils ne l'ont plus, du moins, car ils l'eurent, ceux qui ont dressé les cathédrales sous le ciel. Le grand Flaubert m'y fait penser, ce prince de néant. Il est sec et il sème les cendres. De là, les sables et les salins cuisants de son œuvre. Toutes les lignes sont belles et l'on y respire à peine dans un vent d'éternel ennui. Flaubert est un génie mortuaire. S'il a du cœur, comme je crois, il n'en a pas pour la vie. Et tout ce qu'il en a d'ailleurs, il l'étouffe. Il tâche à être sans amour, comme le monde de son intelligence. Et il y réussit. L'amour de Dieu, ou la charité que je veux dire, quel nom qu'on y donne, implique toutes les autres amours. C'est l'amour de Dieu que Dostoïevski respire, et le peuple russe avec lui. On doit avoir foi au peuple russe sur la foi de Dostoïevski. Dostoïevski, victime des puissances, parle pour les puissances, la tyrannie, la police, l'Église, les riches. À ses yeux, tout le mal qu'elles peuvent faire est compensé de bien loin par l'action qu'elles ont sur l'âme humaine. Elles en provoquent l'excellence en y prodiguant la douleur. S'il finit par les défendre, ces puissances mortelles, j'y vois un triomphe de l'affirmation. Dostoïevski connaît son peuple par soi-même. Toute révolte de la race déchaîne son instinct d'aveugle destruction et d'anéantissement. Le joug qui lui fléchit la tête jusqu'à terre la garde étroitement de l'anarchie. La tête russe nie. Sa liberté tourne aussitôt en négation affreuse. La race des Russes obéit et souffre avec excellence. Elle se rebelle et se fait justice avec infamie. Cette race ne peut aller à la perfection que par les voies de la douleur. En un mot, elle ne veut choisir qu'entre la foi mystique et le néant, entre l'amour de Dieu et la haine de la vie. Dostoïevski, maître en toute passion et tenant toutes les clés de l'abîme, ferme les portes du néant. Tenté de toute négation, il ne détruit rien et il affirme. En Dostoïevski, j'admire un Nietzsche racheté. Je ne crois pas au Prométhée qui perd de la tête sur le rocher. Mon Prométhée fait peur à Jupiter même, qui s'imagine de l'avoir bien cloué. Je ne ferai pas crédit à des dieux qui finissent à quatre pattes dans un asile. Et si la foudre me frappe, dussé-je tenir bon contre elle, le ciel me soit témoin que je ne me serais pas vanté. Tout ce qui est mort et négation dans les philosophes, Dostoïevski l'a surpassé. Mais telle est sa grandeur qu'il monte d'un degré encore. Il porte à la rédemption l'accablement de nos fatalités. Si je l'ai peint comme il est, je ne sais. Mais jamais, il me semble, on ne mesura mieux la distance qui sépare la mortelle théorie de l'œuvre vivante et le penseur sans amour du véritable artiste. Encore un pas. Je dirais de Nietzsche et des anciens qu'ils peuvent suffire au monde de l'intelligence, mais ils ne pénètrent pas d'un pouce dans le monde du cœur. Ils restent sur le seuil, et plus ils s'imaginent de faire la loi à l'intérieur de la maison, plus ils l'ignorent. De là, sans doute, la misérable jactance de Nietzsche, qui excède tout ce qu'on peut permettre à l'orgueil de l'esprit, car c'est l'esprit même qui y entre en décadence et qui marque les degrés de sa chute par des cris. Il ne faut pas que l'orgueil de l'esprit sente la paralysie générale. L'intelligence qui se vante ne trouvera pas d'excuse dans l'abaissement de la folie. Mais au contraire, la fin de cette intelligence porte jugement sur toutes les œuvres de sa croissance. Et quoi qu'on fasse, plus elle a tout réduit à elle seule, plus elle subit la condamnation de son propre dédain. Ce que Schopenhauer est à Spinoza, les grands témoins de la vie le seront toujours à Nietzsche. Et ce sont les grands artistes, les confidents de l'amour. J'en sais plus d'un. Mais Dostoïevski est le premier de tous dans le temps. Il a prévenu toutes les insolences de Nietzsche. Wagner aussi était là. Il n'y a pas si loin de l'idiot à Parsifal sublime. Toute philosophie, d'ailleurs, qui n'est pas un simple jeu de la logique, prend forme dans une œuvre d'art. Il faut sortir de la cage à l'écureuil. Une pensée vivante sur la vie n'a pas d'autre expression qu'un chef-d'œuvre. Les livres de Nietzsche sont des essais au chef-d'œuvre. Mais cet Apollon est toujours dans la cage. Il fait le dieu, en vrai Phébus d'université à bésicle d'or. Tout de même, son char est une chair et son Pégase une rosse allemande, harnachée de lexique in-folio. Nietzsche peut servir de guide à l'enfant prodigue dans ses routes de jeune homme. Nietzsche est une bonne méthode pour la rébellion. Et, comme à la façon des docteurs, il est ivre de ses principes et tout aveugle sur la vie, il despotise. Par là, il apprend la discipline à ceux qui n'ont point de règles intérieures. De même, il satisfait l'instinct de l'art dans les demi-artistes. Wagner vieillard, qui avait passé par toute négation, ne pouvait que lever les épaules au jour de Parsifal devant ce corybante infatué qui, impuissant à toute création et incapable même de plaisir, lançait contre le monde de l'amour ses vieilles idoles de pierre, son Bacchus, son Apollon et son trépied. Il nous faut de nouveaux dieux pour posséder la vie, mais les dieux morts ne ressuscitent pas. Wagner savait que Parsifal est vivant. Et si pour l'offrir au monde, il fallait tourner le dos à un professeur d'orgie logique, il tournait le dos à Nietzsche. Dostoïevski en eût fait autant avec le même droit. Dostoïevski est l'homme de la vie, mais non pas seulement dans les livres. Parce qu'il est l'homme de la vie, son monde est le monde de la force uniquement. Encore les anciens sont-ils les maîtres de l'action, tandis que Nietzsche est insupportablement l'homme du cabinet et des livres. Par lui-même, il ne sait rien de la vie, rien de l'action, rien des passions, et il donne des lois aux passions et à la vie. Je ne m'étonne pas qu'il soit le prophète des professeurs et le dieu des femmes sourdes qui qui tranchent de la bonne ou de la mauvaise musique. Les plus rebelles et qui se flattent de l'être sont la plupart des esprits nés disciples. Que Nietzsche tienne donc lieu des anciens et de la vie héroïque aux gens qui ne savent pas lire. Et s'ils n'ont pas compris les Grecs, ni les Italiens du Moyen-Âge, ni Pascal, ni Stendhal, ni la Révolution, qu'ils nient Nietzsche, lequel leur fait de toute cette grandeur un manuel avec toute la commodité grossière que ce format comporte. On doit s'arrêter à Nietzsche, mais on n'est que la moitié d'un homme si l'on s'y fixe. Il n'est bon qu'aux femmes de lettres et aux jeunes gens. Raskolnikov et tous les jeunes héros de Dostoïevski savent par eux-mêmes tout ce que Nietzsche pourrait leur apprendre. Mais Dostoïevski ne les déifie pas dans cette demi-connaissance. Il ne veut pas qu'ils se tiennent à cet étage grossier de l'énergie. Il les porte à l'étage supérieur, qui est le palier proprement humain de la charité. Quant au surhumain, c'est un bon mot pour les amateurs d'éloquence. À mes oreilles, il a le son répugnant de l'emphase. Il n'y a rien de plus humain que d'être homme. L'homme est rare sur le marché de Jupiter. Et rien de surhumain n'a de sens qu'à la mesure de l'homme. Sois pleinement homme si tu veux passer l'homme. Telle est la grande, l'unique vérité. L'intuition est le lieu de toutes les intelligences. Il n'est rien dans Nietzsche qui ne soit dans Dostoïevski. Mais tandis que tout est négation dans Nietzsche, même ce qu'il affirme, et lui d'abord le malheureux, toutes les négations que la douleur de vivre arrache à Dostoïevski se résolvent dans une affirmation invincible. De la douleur, l'amour conclut en lui à la beauté de la vie. Ce n'est pas le oui de la volonté ou de l'orgueil, ce oui glacé qui est le soleil polaire des stoïques, mais l'amour qui, en portant la vie, l'affirme. Un tel arbre donne les fruits de toute douceur. J'en ai ployé les branches et je les veux réunir dans la rosée qui les trempe, depuis l'offrande de l'aube jusqu'au sacrifice du crépuscule, et même dans l'ardeur de midi. Dostoïevski pleure avec délice, et ses amis pleurent bien souvent comme lui. Je dirais, pour moi aussi, le mystère des larmes. Dostoïevski connaît la merveilleuse humilité des bonnes larmes, et certes, il est en elles un grand secret. Larmes de la tendresse, pluie qui espère et qui renouvelle la forêt humaine. Vous êtes la source ouverte au cœur plein d'amour. Et partout où l'on frappe ce tendre rocher, l'ondée s'épanche, et elle n'est jamais tarie, cette eau amoureuse. Quel orgueil vient de plus haut! Or, elles ne font pas sur les feuilles, elles se donnent et les pénètrent, et parce qu'elles se penchent vers la prairie, on la dédaigne de s'abaisser. Mais tant elle a de pieuse complaisance que nulle offense ne l'atteint, et qu'elle sourit au mépris même. Baiser la terre avec transport, dans la joie ou dans la douleur, dans l'ivresse du bien ou dans l'aveu du crime, baiser la terre en pleurant, s'y renouer, y remplir au griffon du sang le cœur qui se vide et s'altère. Voilà le culte où Dostoïevski convie ses enfants. Et ses pleurs sont riches d'un bonheur ineffable. Ils ont la vie qui est la seule joie et toute joie. Adore la vie. Ton baiser à la terre d'où tu viens et où tu vas et tes larmes confessent ton adoration. Prends patience du mal, ce rite, et prends-y conscience de tout bien. Ton cœur déborde, il te quitte. Il va à toute cette vie qu'il appelle. Et où irait-on qu'à la vie? Ainsi tes pleurs ont la joie, toutes celles que tu attends en celles que tu donnes. Ils ont la joie excessive de toi-même qui te quitte. Ce n'est pas que tu te regrettes, c'est que tu te délivres. Jusqu'à ce baiser pleurant, quel abîme tu te fus à toi-même, et quel désert ou dune de souffrance universelle, infinie, perpétuellement renouvelée, égale comme le vide. Et souffrir pour rien, il n'est pas d'autre damnation. L'enfer est la souffrance dans le vide. Couché contre la terre, tu es le mort béni de la mort volontaire, qui est toute vie. En te quittant, tu ressuscites. Ce départ sans retour est le véritable amour, chère âme. Ce n'est pas cet amour de tête qui crie vivre, vivre avec la bouche affreuse d'un mort. C'est la mélodie du cœur qui se retrouve et qui répond à toute la nature. Me voici, me voici. Il chante la vie, il en est l'éternelle modulation jusque dans la mort, parce qu'il l'a, parce qu'il la porte, parce qu'il la donne. Et que donnerait-on réellement qu'on ne prie de soi et sur soi? Quel don ferais-je si je ne me dépouille? Voilà l'orgueil de l'amour et son humilité sublime. En vérité, l'orgueil qui se vante et qui s'estime, l'orgueil de l'esprit qui se compare, est une espèce d'humilité un peu basse à mon sens. Qui se compare s'abaisse. Ainsi l'orgueil de l'esprit. Mais l'amour qui s'humilie dans les dons innombrables qu'il sait faire, dans toutes les merveilles qu'il suffit à créer, en s'oubliant soi-même et en s'y mettant jusque à s'effacer, ce prodige d'humilité est une grandeur céleste. Et tout l'orgueil des esprits n'égalera jamais, à un infini près, cette humilité divine. Celui qui se donne sans mesure, celui-là possède. Celui-là qui est tout humble au cœur de toute vie, celui-là crée son objet. Et il ne se soucie pas de connaître sa gloire. La superbe est sèche, l'orgueil de l'esprit ne discerne que soi, comme un mort qui se tâte dans le sépulcre. L'amour adore dans les larmes. Tel est le son de Dostoïevski. Voilà cette voix rauque et si douce, l'énergie de cette âme infatigable et ses brûlantes langueurs, ses abandons si tendres, infatigable à souffrir et à vouloir laver l'or des souffrances pour en séparer le trésor de la joie. À la constance de cet orpailleur, à celle-ci, quelle énergie s'égale. Ô sainte, bonne larme, route de l'effusion, sente profonde de la tendresse, c'est vous, très douce larme, qui parlez seule d'amour, et de cet amour qui fait vivre en créant. Et dans l'embrassement même des amants, ce sont les plus pures et les plus chaudes larmes du sang qui parlent pour la vie, qui la communiquent et la transmettent, venant du si loin. Et souvent, ils ne comprennent pas la parole qu'ils prononcent, et ils en sont ennoblis, même quand ils l'avilissent. L'amant baise sa bien-aimée et pleure son sang en elle, comme l'homme enivré de Dieu baise la terre avec de grandes larmes. La terre reçoit ses pleurs, et l'amante en garde avec jalousie l'offrande pécheresse ou la libation sans péché. Si l'esprit s'abaisse ici, ou si la chair est exaltée, qui le mesurera? Servir avec amour est toujours un triomphe. L'humilité de la femme et de la terre doit s'offrir en exemple à tout service. Et je veux bien que la vie trouve son compte à l'humiliation de l'homme. Je ne parle jamais que pour la vie, et je ne vois de bel orgueil qu'en tout ce qui l'augmente et la rehausse. Amour de la vie, c'est mal dit encore. La vie n'est pas si grande ni si forte que l'amour. Elle en attend la parfaite beauté dont notre désir s'est fait une promesse. Plus que l'amour de la vie d'amour, tel est le fond de Dostoïevski. À l'amour de faire naître et de sauver la vie. les meilleurs ne vivent que pour servir ce dessein. Et le plus pur amour est le plus amour. Ô Fédor Mikhaïlovitch, si ardent, si aigu et si humble, vous êtes profond et vrai entre les grands. Vous allez au-delà de tous autres, sans doute, car enfin, où j'en suis venu, il n'est de vérité que dans la profondeur. Pour prendre toute notre hauteur, il nous est nécessaire de mouiller dans les abîmes. Tout est de manque à défaut de la profondeur. Et au total, il y a fausseté ou il y a manque. Voilà donc le point où la haine n'est plus rien qu'une racine torse entre toutes les autres. Et si elle a la forme du serpent ou du ver, ce n'est point pour faire horreur, ce n'est pas pour qu'on l'écrase, mais pour se confondre avec les veines nourricières. Voici le point où tout est idéal à force d'être vrai, où le rêve de l'âme absorbe toute la matière, comme une matrice seconde, mais de résurrection. Ici, la pensée est acte, le fait est idée. Ici, l'acte et l'idée sont tout amour. Tout trempe dans la compassion de la vie pour elle-même, et dans la certitude du salut que le cœur exige d'un amour créateur. Où tout est amour, tout est vie. Par-delà le néant de tous les objets éphémères, c'est là-dessus enfin que notre foi ou notre espoir se fonde. Dostoïevski, si je ne me trompe, et moi-même à mon rang, nous sommes l'antidote de la tyrannie rationnelle, des philosophes et de tout poison inhumain. Dostoïevski, le cœur le plus profond, la plus grande conscience du monde moderne. 1910.